culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. J'ai devant moi Daniel de Smet, une de vos dernières publications, ça date quand même de 2007, mais enfin, de ces publications savantes où vous nous donnez en traduction et en édition bilingue avec l'établissement scientifique des textes à partir d'un certain nombre de manuscrits, des écritures des Druzes en fait, hein, des épîtres sacrées des Druzes, Rasa'il al-Hikma, traduction littérale, épître de la sagesse, les volumes 1 et 2, évidemment avec une introduction qui nous fait comprendre la religion des Druzes. Daniel de Smet, je rappelle que vous êtes historien de la pensée et de la philosophie, plutôt ésotérique, non ? Pas forcément.
De la philosophie néoplatonicienne
et ses effets,
son adaptation et
dans la langue arabe alors,
dans le monde arabe,
dans
oui,
le monde arabe.
Et dans le chiisme en particulier.
Oui. Voilà. Oui. Alors, en vous lisant, j'apprends que les études druzes n'ont pas avancé depuis celui-là même, le premier qui a travaillé sur eux, Sylvestre de Sacy, vers les années 1810-1820.
Oui, tout à fait. En fait, suite aux circonstances politiques, la France a toujours été très présente dans la région où vivent les Druzes, la Syrie, le Liban. Et donc déjà à l'époque de Louis XIV, Louis XIV avait reçu à Versailles un médecin syrien, un certain Nasrallah ibn Jalda, qui avait apporté au roi des manuscrits druzes, bon, quelques épîtres druzes, et ça avait vivement suscité l'intérêt du roi Soleil. Et donc le roi avait demandé à un arabisant, un certain Petit de la Croix, de traduire ces textes en français. Et donc depuis Petit de la Croix, donc on est tout à fait au début du XVIIIe siècle, il y a eu toute une série de chercheurs majoritairement français qui se sont intéressés aux Druzes. Mais depuis lors, bon, le nombre de manuscrits s'est considérablement accru, notamment à la Bibliothèque nationale de France, et c'est bon, le fondateur des études arabes modernes, le baron Isaac Sylvestre de Sacy, qui a consacré une grande partie de sa vie, de sa carrière scientifique, à l'étude de ces manuscrits druzes. Et bon, il en est sorti un magistral ouvrage, l'exposé de la religion des Druzes, qui est paru posthumement, juste après la mort de Sylvestre de Sacy, en 1838, dans lequel bon, il offre une étude vraiment magistrale pour l'époque de la doctrine druze. Mais évidemment, c'est une étude qui actuellement est tout à fait dépassée, puisque Sylvestre de Sacy n'avait pas à sa disposition le matériel de comparaison pour comprendre ces textes, notamment les textes ismaéliens, puisque le mouvement druze est issu au début du XIe siècle, on est tout à fait au début du XIe siècle, du mouvement ismaélien, donc un mouvement chiite au sein de l'islam. Et donc, j'ai cru utile de reprendre tout ce dossier et tout d'abord d'établir un texte critique d'une partie de ces épîtres, bon, et d'essayer d'en faire une traduction française, ça n'a jamais été traduit en français intégralement, et en même temps d'en faire une étude doctrinale et historique. Et c'est cela que j'ai présenté dans
ce livre qui est paru aux éditions Peters, qui sont domiciliés entre Louvain et Paris. Hein.
Majoritairement à Louvain, donc en fait, ils sont à Louvain, mais ils ont un bureau à Paris.
Voilà, c'est ça, oui. En 2007, je le rappelle. Et Sylvestre de Sacy était fasciné par les textes druzes, au point qu'il a intégré 120 pages de ces textes druzes dans sa propre anthologie,
la
chrestomathie arabe.
Tout à fait, il oui. était absolument fasciné par ce monde étrange qui constitue la religion druze, Mais en même temps, bon, il y avait, bon, Sylvestre de Sacy était un auteur du début du 19e siècle, donc il y avait également un arrière-plan idéologique, parce qu'en fait, il voyait dans les Druzes une société secrète comparable à la franc-maçonnerie. Et bon, entre les lignes, quand on lit son livre, surtout l'introduction, il y a des attaques contre la Révolution française, contre la libre pensée. Donc voilà, l'humanité laissée à soi-même, sans guide spirituel ou religieux, une pratique de la raison sans guide, c'est tel que Sylvestre de Sacy comprenait la religion druze, mène à des aberrations totales qui, selon lui, étaient la Révolution française. Et bon, donc c'est cela, c'est cet arrière-plan de lutte contre des sociétés secrètes maçonniques qui a motivé son intérêt, je crois, pour tout ce mouvement druze.
Société secrète et extrémisme, d'ailleurs la critique que les musulmans eux-mêmes font à ce mouvement à la fois ismaélien et dans sa forme extrême druze, ce qu'on appelle le relou, l'expression est coranique, c'est-à-dire celui qui exagère dans l'interprétation ou dans la construction d'un système.
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est toute la question. Enfin, c'est une question. Je dois préciser tout d'abord que, bon, mon étude est une étude historique des débuts du mouvement druze. Donc j'ai publié, j'ai édité et traduit les 40 premières épîtres des Rasa Ildan. Je suppose on parlera tout à l'heure, qui sont des écrits de Hamza ibn Ali. Donc une partie de
un persan qui est venu vers le Caire, qui était tout cela se passe au Caire.
Qui était un da'i ismaélien, donc
un propagandiste,
un propagandiste, oui, ismaélien d'origine persane, qui était actif au Caire dans l'entourage du calife El-Hakim. Et d'autre part, il y a quatre épîtres qui sont de Ismaïl et-Tamimi, qui était un collaborateur de Hamza. Et donc lui aussi vivait au Caire dans ce même milieu. Donc tout ce mouvement druze est issu de l'ismaélisme fatimide, mais on représente une forme, disons, extrême, extrémiste, ce qu'on appelle roulou, hein, l'exagération. Et bon, ici, l'exagération réside surtout dans le fait que la figure du calife imam fatimide El-Hakim bi-Amrallah, qui est considéré encore aujourd'hui par les chiites ismaéliens comme un imam, donc comme un successeur légitime du prophète, est considéré par les druzes comme une manifestation de Dieu, de la divinité elle-même. Donc c'est la théorie du khulul, de l'inésion de l'aspect humain de la divinité dans un corps humain. Donc, et c'est cela qui est considéré comme une forme de roulou, hein, et qui est évidemment absolument incompatible avec l'islam orthodoxe.
On va revenir évidemment loin, au combien incompatible. Déjà, les ismaéliens eux-mêmes trouvaient cette interprétation excessive, exagérée.
Donc à l'époque, il ne faut pas oublier que l'ismaélisme, à partir du début du Xe siècle, avec l'établissement de l'État fatimide, d'abord en Ifriqiya, puis en Égypte, le Caire, une partie de la Syrie.
Leur première capitale étant une ville fondée par eux, Madia, c'est-à-dire le lieu du Mahdi.
Oui, et donc après, c'est un mouvement messianique, mais évidemment un mouvement qui était devenu religion d'un État qui rival direct des Abbassides, fondateur du Caire en 969. Et donc, bon, l'ismaélisme fatimide était un ismaélisme modéré. Donc, on rejetait ces éléments extrémistes, sont présents dans le chiisme dès le départ. Bon, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont prétendu que l'imam, par exemple, Ali, était une manifestation de la divinité. Mais donc, ces éléments extrême, l'inésion de Dieu, de l'esprit divin dans le corps de l'imam, et en même temps, souvent lié à cela, un messianisme extrême lié à une forme d'antinomisme, de libaha, donc le rejet de la loi. Ces éléments sont présents dès le début du chiisme, bon, c'est très ancien. ont été rejetés et également dans le mouvement ismaélien, mais ces éléments extrémistes ont été rejetés par la doctrine officielle ismaélienne de l'Empire fatimide, par exemple par le Kordi Noman ou par Hamid Din El-Kirmani. Et nous savons par les écrits d'El-Kirmani qu'à l'époque d'El-Hakim, plusieurs douates, plusieurs missionnaires ismaéliens ont professé, ont enseigné des doctrines extrémistes concernant l'imam qui était censé être un personnage divin, une incarnation de la divinité. Et donc Kirmani, comme il était en poste en Irak, bon, il faisait de la propagande ismaélienne au cœur de l'Empire abbasside, et puis il a été appelé au Caire au début du 11e siècle sous El-Hakim pour combattre ces formes d'extrémisme. Et donc il nous a laissé plusieurs épîtres dans lesquelles il combat absolument ce qu'il appelle du rouleau de l'extrémisme. Et donc un de ces mouvements, c'est le mouvement qui est devenu plus tard la religion druze.
C'est passionnant, vous nous le rapportez dans vos notes et votre introduction, Daniel de Smet, la manière avec laquelle les collections occidentales se sont faites à propos de cette littérature druze, très difficile, avec un moment d'absence, ça a commencé assez tardivement, relativement, du fait que c'est une religion qui est construite sur la taqiyya, c'est-à-dire sur le secret et sur la non-transmission, mais absolue, radicale, à tout étranger.
Donc
très souvent, les collections sont le résultat de rapts suite à un certain nombre de guerres menées dès l'époque ottomane contre les druzes.
Oui, tout à fait. Donc
c'est très intéressant. C'est des prises de guerre, en fait.
C'est le grand paradoxe, en fait, de cette littérature druze. C'est qu'en fait, les druzes, apparemment déjà, on connaît très mal l'histoire religieuse des druzes. Mais déjà à une époque assez ancienne, les druzes ont été, les autorités religieuses druzes ont absolument interdit aux membres de leur communauté de diffuser les écrits sacrés, toute leur littérature à des non-druzes. Donc même au sein de la communauté druze, seuls les initiés, ce qu'on appelle les okkal, les savants, ceux qui ont prêté un serment spécial et qui se sont engagés à suivre certaines règles très strictes, ont droit en principe de lire les épîtres et les autres textes druzes. Et d'autre part, les simples membres de la communauté, l'immense majorité, n'en avaient même pas accès. Donc c'est une littérature secrète, mais paradoxalement, ces épîtres sacrés qui sont en fait ces rasail, ce qu'on appelle les rasail al-hikma, qui sont le corpus de textes sacrés sur lequel est fondé le système druze, comme l'islam est fondé sur le Coran, donc ça remplace en fait le Coran. Ces textes ne sont absolument pas secrets, en ce sens qu'il y en a des centaines de manuscrits conservés dans d'innombrables bibliothèques en Occident. Tous ces manuscrits, évidemment, proviennent de pillages lors des innombrables conflits, évidemment, qui ont déchiré la Syrie, le Liban, depuis l'époque ottomane et encore au XIXe siècle, parce qu'après Sylvestre de Sassy, en 1840, il y a eu un gros problème communautaire entre les musulmans et les chrétiens au Liban et les druzes. La France, l'Angleterre s'y est mêlée. Et donc, il y a énormément de manuscrits qui ont été pillés dans les chalois.
Il y a des prises aussi par l'expédition d'Ibrahim Pacha, le fils de
1840, donc c'est le
Mohamed
le
Ali.
Fils de Mohamed Ali,
d'Égypte, le khédive d'Égypte.
L'Égyptien. Et donc, j'ai fait une étude là-dessus qui est extrêmement intéressante. Donc, Ibrahim Pacha avait un collaborateur qui s'appelait Claude Bey, un Français, originaire de Marseille, qui a accompagné, celui qui au Caire avait organisé le service médical de l'armée, il avait créé un hôpital selon un modèle occidental, et lui il était tout à fait passionné par ces manuscrits de ruse. Il en a récolté des centaines. Bon, c'est incroyable. Et il les a offerts à tous les souverains de l'Europe, à la reine d'Angleterre, au roi belge. Bon, il y en a partout, au roi de Toscane, au roi de Naples. Bon, partout, il a offert ces manuscrits comme des dons précieux. Il ne lisait même pas l'arabe. Bon, mais il était tout à fait persuadé qu'il y avait dans ces textes un trésor de science, de sagesse. Et bon, ce qui fait que bon, ces manuscrits sont facilement accessibles dans les bibliothèques, mais paradoxalement, ils n'avaient jamais été édités d'une façon critique ni étudiés selon des normes modernes.
Vous nous évoquez une édition, mais un peu falsifiée, oui. Probablement faite en milieu maronite pendant la guerre civile libanaise des années 1980, pour un peu discréditer les druzes comme anti-musulmans et anti-coraniques.
Oui, tout à fait. Donc, il y avait déjà Sylvestre de Sacy avait publié quelques épîtres dans sa Christomathie arabe, comme vous venez de le rappeler. Puis il y a quelques savants qui ont publié par-ci par-là dans des revues scientifiques une épître. Mais donc l'ensemble de ce corpus de textes sacrés n'avait jamais été imprimé. Donc, et puis tout à coup est sortie une soi-disant édition en pleine guerre civile au Liban. Des Rasa'il el-Hikma avec une introduction. Bon, c'est fait. On sait maintenant que c'est fait par un père maronite dans le but, en fait, de montrer que les druzes ne sont pas des musulmans, sont des apostats, et pour essayer de monter les musulmans contre les druzes. Bon, cette édition a été interdite au Liban. Bon, ça a provoqué beaucoup de remous, mais évidemment, il y avait des exemplaires qui ont circulé. Mais maintenant, bon, les textes ne sont plus du tout secrets puisqu'ils sont même accessibles sur Internet. Donc le secret de ces textes est percé, bien que les autorités druzes actuelles sont toujours très frileuses d'évoquer ces textes et surtout de parler de leur contenu. Ça reste quand même un sujet très délicat.
Je rappelle aussi aux lettrés parmi nos auditeurs que le personnage de ce calife d'Al-Hakm qui est à l'origine de cette nouvelle religion, de cette nouvelle construction religieuse, celle des druzes, a été rendue célèbre par Nerval.
Par Gérard de Nerval.
Gérard de Nerval, dans son voyage en Orient, lui consacre plus qu'un chapitre, presque un libretto à l'intérieur de son voyage en Orient, où il rappelle plus ou moins son histoire jusqu'à son occultation.
Oui, donc Gérard de Nerval était évidemment un lecteur de Sylvestre de Sacy et d'autres textes qui étaient parus à cette époque. Bon, c'était très, très, très à la mode. Il existe tout un dossier. Bon, il était très bien. Mais donc là aussi, c'est lié à la fascination.
Lui, il était impressionné par le côté illuminé, en somme.
Illuminé, mais également par la fascination que Gérard de Nerval avait pour la franc-maçonnerie. Il paraît qu'il n'était pas franc-maçon lui-même, mais bon, il était absolument passionné par tout ce qui touchait à la franc-maçonnerie. Et lui aussi voyait dans les druzes
une annonce.
Une annonce. Bon, il y a beaucoup de... il y avait un historien des religions belge, le comte Eugène Goblet d'Alviella, qui lui aussi, bon, qui était franc-maçon, qui jouait un grand rôle dans la franc-maçonnerie belge, qui a écrit plusieurs articles sur les origines druzes de la franc-maçonnerie. Donc lui aussi était persuadé que... Et donc, bon, au 19e siècle, c'était vraiment un sujet qui passionnait les gens.
Alors, revenons au point de départ, si vous pouvez nous faire un résumé de la vie de celui-là même qui est à l'origine de cette histoire, El-Hakm. Il est né en 1985. Il a été désigné comme successeur du calife Fatimide en successeur en 93. Il accéda au califat en 96. Et puis, il règnera jusqu'à 1021, très précisément le 13 février 1021, où il y a eu cet étrange épisode. Lui, il adorait se promener la nuit. Et là, il n'est jamais revenu. On n'a jamais retrouvé son corps. Et c'est là, donc, qu'est née cette espèce de mythe de l'occultation de l'imam. Nous attendons toujours sa parousie.
Donc en fait, Al-Hakim était un calife fatimide, mais comme tous les califes fatimides, il était reconnu par les Ismaéliens comme un imam légitime, donc un successeur de Ali et de Fatima, donc le seul détenteur de l'autorité religieuse en islam après la mort du prophète. Mais el-Hakim, bon, toutes les sources actuellement disponibles, qu'elles soient sunnites, chiites ou chrétiennes, nous dépeignent ce personnage comme quelqu'un d'extrêmement étrange. Donc il avait un comportement bizarre, il prenait des mesures tout à fait curieuses. Bon, il a interdit par exemple la molouchia.
La corette, voilà, ce plat à base de corette, qui est un plat national jusqu'à aujourd'hui
en Égypte. Il a interdit les fèves, curieusement. Les pythagoriciens interdisaient également les fèves. Donc, il y a toutes sortes de choses. Bon, il interdisait qu'on fabrique des chaussures pour les femmes, pour les obliger de rester à la maison. Donc, enfin, toutes sortes de... C'est lui qui a fait démolir l'église de Jérusalem, l'église de la résurrection à Jérusalem. Donc, il prenait des mesures contre les juifs, contre les chrétiens, tout ça. Et puis après, il révoquait ces mêmes mesures. Donc, bon, il y a un certain consensus dans les sources qu'il était complètement fou. Bon, en Occident, on l'a souvent...
Il se promenait... pour un calife, c'est un scandale.
Il se promenait sur un âne.
Sans selle, pour ainsi dire.
Oui. Bon, et donc, vêtu de bure, il allait se promener sur le mont Moukattam. Et donc, il y avait beaucoup de rumeurs sur la folie. Il y a un auteur chrétien contemporain, Yahya Ibn Saïd al-Antaki, qui dit qu'il souffrait de mélancolie, bon, qu'il était complètement fou. Et donc, c'est ce comportement bizarre qui a été interprété. Les Ismaéliens eux-mêmes sont très discrets là-dessus, mais par certains mouvements extrémistes issus de l'ismaélisme, comme un signe que, d'une part, el-Hakim était une figure messianique, c'est lui qui allait... qui annonçait la fin des temps, et en même temps que son comportement manifestait sa nature divine. Et donc là, dans les textes que j'ai édités, les textes de Hamza ibn Ali majoritairement, on ne sait rien de sa vie, hein, bon, c'est quelqu'un qui apparaît au Caire au début du XIe siècle, et selon dans les écrits de Hamza, el-Hakim n'est pas un imam. Donc, ce n'est pas l'imam, c'est tout simplement une nouvelle manifestation de la divinité dans une enveloppe charnelle humaine. Et donc là, il développe dans ses textes toute une théologie, on pourrait même parler d'une hakimologie. Donc, pour lui, Dieu, l'être ultime,
sophiologie, quoi,
a un aspect divin, un lahout, qui est absolument inaccessible, c'est le dieu inaccessible des Ismaéliens, bon, qui est absolument inconnaissable, ineffable, mais cette même divinité a un aspect humain,
nasout.
Donc c'est aussi une terminologie qu'on trouve dans le christianisme, mais qu'on trouve également dans des mouvements chiites, et c'est ce nasout qui, à certains moments de l'histoire, prend l'apparence d'une forme humaine. Et donc, cela... dans le système druze, qui est extrêmement compliqué, mais qui est dérivé de l'ismaélisme, au début de notre cycle, de présent cycle, celui des hommes, donc Adam, le premier Adam, cette divinité a pris la forme humaine d'un personnage qu'ils appellent El-Bar. El-Bar qui viendrait du persan Bar-Khoda, qui veut dire Dieu. Et donc, à ce moment-là, Dieu était directement accessible aux hommes. Donc il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de révélation, puisque pas de livre sacré, parce que Dieu était directement présent aux hommes. Et ce n'est que par la corruption du genre humain suite à l'action de forces diaboliques d'adversaires que l'humanité est devenue indigne d'avoir un accès direct à la divinité. El-Bar s'est retiré, il s'est occulté, et il a envoyé à ce moment-là des prophètes avec une loi. Et donc Noé est considéré comme le premier prophète, dont le seul but, donc chaque prophète, puis après Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, il y a eu Mohammed, tous ces prophètes sont considérés comme, et leurs livres et leurs lois, comme une punition divine. Donc à ce moment-là, c'est l'idée ismaélienne du cycle d'occultation. Donc l'humanité vit dans un cycle d'occultation, où la divinité est cachée et où la vérité est également occultée derrière le sens littéral de textes révélés et de lois. Et donc, selon Hamza ibn Ali, selon nos auteurs, à la fin, donc, à l'époque de Hakim, le cycle d'occultation dont Mohammed était le dernier prophète touche à sa fin. Et donc, l'humanité, le nasout de Dieu, apparaît à nouveau sous l'apparence d'une personne humaine qui est donc le calife El-Hakim. Et à ce moment-là, cela, puisque le cycle de Mahomet est fermé et on entre dans un nouveau cycle d'occultation, cela implique automatiquement la fin de l'islam. Donc, le cycle islam est fini.
Et la fin de toute loi, d'où l'antino...
La fin, évidemment, de toutes les religions antérieures, et en particulier de l'islam. Et donc, une grande partie des textes que j'ai édités, d'une part, s'efforce de montrer cette divinité d'El-Hakim, qui, je le répète, n'était pas du tout considéré comme un imam, c'était vraiment Dieu lui-même, qui se manifeste en son humanité qui est El-Hakim. Donc, c'est essayer de comprendre cela, c'est très compliqué, ce n'est pas vraiment une incarnation. Il y a un collègue libanais...
Alors, ce débat, incarnation ou subcarnation.
Oui, c'est un terme qui a été forgé par un collègue et ami Jad Hatem, qui est très bien, je trouve ce terme très bien. En fait...
Mais où expliquez bien la nuance entre incarnation ou subcarnation.
En ce sens que ce n'est pas l'âme divine d'El-Hakim qui est liée à un corps humain comme toute âme est liée à un corps dans n'importe quel être humain, mais c'est le fait que Dieu, l'esprit de Dieu, le nasout de Dieu, prend possession d'un corps sans vraiment y inhérer. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de passages dans les textes que j'ai traduits où on insiste sur le fait qu'El-Hakim n'avait pas de fonction corporelle. Il allait se promener en plein été, à midi, dans le désert de Mukattam. Ses serviteurs avaient soif, transpiraient, alors que Hakim n'avait ni soif ni transpirait. Bon, il y a même des textes qui disent « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut affirmer avoir vu El-Hakim manger, boire, uriner, aller à sel ?» Non, il n'avait pas de fonction corporelle. Son corps n'est qu'un simulacre, ce n'est pas un vrai corps. Bon, c'est une idée qu'on trouve dans certains mouvements gnostiques, que le corps du Christ n'était pas... C'est un simulacre, c'est pas un vrai corps. C'est considéré comme hérétique, évidemment, par la majorité des mouvements chrétiens. Mais donc, c'est cette idée. Et donc, c'est ça, la subcarnation. C'est pas vraiment une incarnation. Ce n'est pas un esprit divin dans un corps humain. Non, c'est un esprit divin qui habite dans un corps humain, mais un corps humain qui n'a pas de fonction corporelle. Donc, il n'a pas de fils, il n'est pas le fils. Hakim n'est pas le fils d'un père, il n'a pas de père, pas de mère, il n'a pas engendré, comme le dit le Coran, et il n'a pas engendré et il n'est pas engendré. Donc, c'est toute cette idée d'un être absolument exceptionnel. Donc, ça, c'est d'une part, c'est un des grands points de la doctrine druze. D'autre part, le fait qu'il a aboli une à une les préceptes de l'islam. Tous les piliers de l'islam, il les a démolis un après l'autre.
Qui sont sept, selon la théorie des chiites ismaéliens.
Qui sont sept, puisqu'ils y ajoutent la djihad, la guerre sainte, mais qui souvent ils interprètent comme la lutte contre les ennemis du chiisme. Et d'autre part, très important, la walaya, la fidélité aux imams.
Aux imams, oui.
Et donc, ces sept préceptes, El-Hakim les aurait abolis les uns après les autres. Et le comportement bizarre d'El-Hakim, toutes ces bizarreries, sont expliquées dans les épîtres druzes comme se référant au fait qu'il avait aboli la charia.
Comment El-Hakim lui-même percevait cette théorie qui le divinise?
C'est un très grand débat ouvert, et on ne le saura jamais. Ça veut dire que tous les adversaires d'El Hakim, tous les adversaires de l'ismaïlisme, que ce soit des auteurs sunnites que des auteurs chrétiens, disent évidemment que El Hakim était complice, que bon, dans sa folie, il soutenait l'idée de sa propre divinité. Évidemment, les ismaéliens nient cela tout complètement, évidemment. Donc, mais fait est que de son vivant, il n'a jamais pris de mesures contre ce mouvement. Et après sa disparition en l'an 1021, bon, son successeur, Zahir, va immédiatement émettre un édit, un sigil, où il condamne la divinisation de son père El Hakim, disant que c'était un homme de chair et d'os, un imam comme tous les autres, et où bon, il annonce la persécution de ceux qui persistent à professer de telles doctrines.
Donc les druzes vont subir la persécution.
À ce moment-là,
ils vont associer leur religion avec ce qu'ils appellent la mahna, c'est-à-dire presque l'inquisition qu'ils vont subir.
Ah oui, tout à fait. Donc
l'épreuve, la mahna, c'est la traduction littérale, c'est l'épreuve.
C'est la preuve.
C'est la religion de l'épreuve.
C'est l'épreuve. Donc à ce moment-là, donc pour terminer ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Donc, selon la doctrine de Khamsa, donc en 1021, bon, enfin, ça c'est un fait historique, en 1021, lors d'une de ses balades sur le mont Mukattam, El Hakim a disparu. Bon, on a retrouvé son âne, mais lui-même, on l'a jamais retrouvé. Probablement, il a été assassiné. Bon, et puis sa sœur, Sitt el-Mulk, a gardé pendant quelque temps sa disparition secrète, et puis finalement elle a rangé les choses pour que son fils puisse succéder à El Hakim. Mais selon la doctrine druze, en 1021, puisque bon, il y avait tellement d'opposition contre les druzes au sein de l'establishment ismaélien, ils disent voilà, ils ont que l'humanité n'est plus capable et n'est plus digne d'avoir un accès direct à la divinité. Donc, El Hakim s'est retiré, comme El Bar, à l'époque d'Adam, après Adam, après la chute d'Adam, s'est retiré du monde. Et donc, il vit en occultation, et il y aura peut-être une autre manifestation de la divinité, et l'humanité est retournée dans un cycle d'occultation.
Mais même dans ce cycle d'occultation, il y a toujours un substitut humain à Dieu, puisque il y a cette théorie très étonnante que à côté de Mohammed, il y avait Salman le Perse, et que c'est lui qui dictait le Coran. Le Coran transcrivait la parole de Salman et non pas de Dieu.
Oui, ça c'est lié évidemment à toute la cosmologie très compliquée des druzes qui là aussi est liée à la cosmologie ismaélienne, en ce sens qu'il y a Dieu qui est inaccessible et ineffable, qui crée l'intellect, donc c'est la théorie de Plotin, hein, du néoplatonisme, puis l'intellect crée ou fait émaner l'âme universelle, dont chez les druzes, l'âme produit la parole, et la parole produit le suivant, le devançant, le sabik, et le sabik, le tali, le devançant, donc le suivant. Donc finalement, on a cinq hypostases. Donc on a une pentade, le monde intelligible est considéré comme étant composé de cinq niveaux, d'une pentade. C'est une idée aussi gnostique, évidemment. Il y a cinq êtres spirituels qui forment le monde intelligible. Mais la particularité de la doctrine russe, c'est que au cours de l'histoire, non seulement la divinité prend forme humaine, mais également chacun de ces cinq êtres spirituels. Donc l'intellect prend forme humaine, l'âme prend forme humaine, la parole, le devançant et le suivant. Ils sont tous là. Et donc, à chaque moment, dans chaque cycle, et donc à l'époque de Mohammed, l'intellect était Salman, c'était Salman, bon, c'est ce fameux disciple persan de Mohammed qui joue un grand rôle dans le chiisme, mais aussi dans les mouvements soufis, par exemple, et qui est considéré comme porteur, on l'appelle Salman Pak, hein, Salman le pur, porteur d'une sagesse orientale. Donc l'intellect, c'était Salman. Et l'âme universelle à l'époque de Mohammed était l'âme, était Miqdad. Et Miqdad, c'est un compagnon du prophète qui lui aussi est très prisé par les chiites. Et donc, c'est lui qui a révélé le Coran à Mohammed. Mohammed, en fait, n'était pas une incarnation d'une de ces hypostases célestes, mais tout simplement un prophète qui était envoyé avec le Coran pour châtier les hommes, parce que bon, le temps n'était pas encore mûr pour ouvrir un nouveau cycle d'occultation. Donc là, on a évidemment une vision qui est très surprenante de l'origine du Coran. Donc en fait, c'est l'intellect qui, par l'intermède incarné dans la personne de Salman, révèle le Coran.
Alors, cette fameuse pintade chez les Druzes, elle est aussi, elle a face à elle des adversaires.
Oui, parce que donc à chaque fois que... Donc ça aussi, c'est un élément qui est pris de la cosmologie ismaélienne. Ça veut dire que la première chose que Dieu qui est une lumière étincelante, absolument pure, dénuée de toute forme d'obscurité, Dieu a créé l'intellect. Et l'intellect est lui aussi était un être absolument pur, une pure lumière. Et puis les auteurs druzes citent un célèbre hadith qu'on trouve qui est très répandu dans la littérature chiite. Dieu dit à l'intellect, avance, et l'intellect avançait. Il lui dit, recule, et l'intellect reculait. Et puis il dit à l'intellect, voilà, vous êtes vraiment un être parfait, celui qui vous obéit m'obéit, et celui qui vous désobéit me désobéit. Et de là, l'intellect, bon, il était tellement flatté par ces paroles qu'il, ne voyant personne autour de lui, a dit, voilà, moi je suis seul, je suis vraiment le seul maître sur terre, puisque Dieu...
C'est ce qu'on appelle l'orgueil de l'intellect.
C'est l'orgueil de l'intellect, et c'est cet orgueil. L'intellect n'avait que des perfections, que des vertus, et son orgueil était évidemment à provoquer une tache d'ombre, et cette tache d'ombre, c'est concrétisé dans l'adversaire. Il a eu un collègue, il a reçu un collègue, un adversaire, un anti-intellect. Et pour neutraliser cela, l'intellect s'est alors repenti, il a demandé pardon à Dieu, il a dit, voilà, je ne suis pas le seul maître, bon, je me soumets. Et alors il a reçu de Dieu la permission de faire émaner de sa propre lumière une nouvelle entité qui est l'âme. Mais bon, l'adversaire en a fait de même. Et donc, cette pentade, ces cinq êtres de lumière sont flanqués dans la cosmologie druze par cinq êtres d'obscurité qui, elles aussi, s'incarnent dans l'histoire. Et ça, c'est la raison, par exemple, pour laquelle, à chaque fois, les choses vont mal. Donc, Dieu s'est incarné dans la figure de l'Hakim. L'intellect s'est incarné dans la figure de Hamza ibn Ali. Il dit de lui-même qu'il est l'intellect universel. Tamimi, son coéquipier, auteur de plusieurs épîtres, se disait l'âme universelle. Bon, il y a d'autres contemporains qui se disaient la parole, qui se disaient le suivant.
Ce qui fait ce que vous appelez une hiéro-histoire.
Une hiéro-histoire, tout à fait. Mais en même temps, les adversaires se sont également incarnés. Et donc, là, c'est des personnages historiques de l'Empire. Entourage de Hakim qui faisait partie de la cour, bon, des hauts magistrats, le Qadi el-Kudat, le Da'i el-Du'at, de la hiérarchie ismaélienne, qui sont censés être les incarnations de ces principes du mal. Et c'est eux qui ont saboté l'action d'el-Hakim. Et c'est pour cette raison qu'en 1021, il s'est retiré, tout simplement.
Alors, un petit détail technique, Daniel de Smet, comment vous expliquez ces multiples références coraniques dans le... C'est comme un paradoxe dans ces épîtres, alors que pour ceux qui l'ont écrit, les fondateurs donc de la religion des Druzes estiment le Coran aboli, ils n'ont pas une haute idée du Coran, en principe.
Non, mais il y a effectivement un paradoxe, mais toute cette littérature, c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer, est issue de la tradition ismaélienne, notamment de ce qu'on appelle les majelis el-hikma, les sessions de la sagesse, les sciences
de
la
séminaires,
sagesse,
là.
Qui sont des séminaires donnés par les missionnaires ismaéliens, souvent à l'intérieur
du palais.
Palais, et qui n'étaient accessibles qu'aux seuls initiés, et où on se livrait à l'exégèse ésotérique du Coran. Donc on lisait le texte coranique, et puis on a des exemples d'une telle littérature. Et donc, une grande partie de ces épîtres sont conçues selon la même formule. Donc, on part de textes coraniques, c'est souvent un patchwork de textes coraniques, auxquels on donne une exégèse ésotérique, mais qui est évidemment
parfois délirante.
Tout à fait différente de celle des Ismaéliens, pour soutenir le fait que, bon, l'islam est aboli, que Al-Hakim est Dieu, et bon. Donc, tout à fait. Mais on emploie la même formule. Et en fait, selon la doctrine russe, le Coran, ben, c'est la parole de l'intellect. Mais même dans l'ismaélisme, le Coran, puisque Dieu ne parle pas, l'intellect est le principe de l'inspiration que le prophète a reçue et à partir de laquelle il a formulé le Coran. Bon, c'est le prophète qui a fait le Coran. C'est l'idée du mutazilite, du Coran créé par le prophète. Évidemment, sous inspiration divine. Mais ici, là aussi, bon, Salman a dicté le Coran à Mahomet, mais bon, c'est un texte exotérique qui a un sens ésotérique, tel que les Druzes le comprennent. Donc, ils en dégagent le sens ésotérique pour montrer qu'en fait, le Coran est abrogé avec l'apparition d'El-Hakim.
Oui, parce qu'ils pensent que toute loi est abrogée, qu'elle soit exotérique ou ésotérique, d'ailleurs.
Oui, donc ça aussi, c'est une innovation des Druzes, puisque bon, il y a eu des courants extrémistes au sein de l'ismaélisme, qui disaient, bon, si on connaît le sens caché, le sens batin, du texte coranique et des prescriptions de la charia, le sens littéral et de ces prescriptions ou du texte tombe. Bon, il faut plus y croire. Mais les Druzes disent non, tout le Coran a été aboli avec l'apparition d'El-Hakim, aussi bien dans son sens zahir qu'en son sens batin. Donc maintenant, on est dans une nouvelle ère qui n'est plus celle du Coran. Donc c'est ça
Et alors, dans la tradition ismaélienne, il y a une importance de la métempsychose qu'on appelle le tenesr, le taqamosh, mais Hamza ne lui attache pas quelque importance.
Mais c'est la religion druze, un des rares éléments qui sont généralement connus de la religion druze, c'est que les druzes croient en la métempsychose. Alors que, curieusement, dans les textes que j'ai publiés, il en est très peu question. Alors, il y a une épître qui est une polémique contre les Nusayri, contre cette secte rivale qui est surtout répandue encore de nos jours en Syrie, les Alaouites. Bon, et Hamza les reproche de croire en la métempsychose en ce sens, mais il interprète le terme métempsychose de réincarnation d'une âme humaine dans un corps animal. Donc, une âme pécheresse pourrait se réincarner dans le corps d'un chien ou d'un porc ou d'un serpent. Ça, il le rejette complètement comme étant contraire à la raison. Mais bon, il parle très peu de la métempsychose, probablement parce que Hamza était persuadé que la fin des temps était arrivée, que bon, l'ère messianique, enfin, peut-être pas la fin des temps, mais que l'ère messianique était arrivée et que bon, il fallait plus, ceux qui étaient sauvés, et bon, ne pouvaient retourner vers leur origine céleste, et ils n'avaient plus besoin de se réincarner. Les âmes qui avaient cru en Hakim, en l'unicité, dans le Tawhid d'El-Hakim, n'étaient plus sujettes à la métempsychose, donc pouvaient immédiatement retourner à l'origine, au monde intelligible dont elles sont issues.
Alors
plus tard, évidemment, avec la fermeture de la da'wa druze après l'occultation d'El-Hakim, donc on est retourné dans un cycle d'occultation, la situation change, donc là de nouveau, apparemment les temps n'étaient pas encore mûrs, et donc en attendant une nouvelle apparition de la divinité ou un retour d'El-Hakim, les âmes doivent se réincorporer dans des nouveaux corps. Et c'est cela qu'on, dans la littérature druze plus tardive, on appelle takamos, donc le fait que l'âme doit revêtir une nouvelle chemise corporelle, un kamis, hein, pour
pouvoir subsister aussi longtemps que la gnose intégrale susceptible de libérer l'âme de ses liens avec le corps n'est pas révélée.
Alors, le rejet de la loi, là, c'est vraiment... j'aimerais bien qu'on le retrouve à travers la discussion, cette lettre qui est une des premières du corpus scripturaire des Druzes. Cette discussion très serrée, argumentée, qui met en scène Al-Hakam face aux chrétiens et aux juifs qui sont... quelque peu scandalisés, en tous les cas, qui viennent à doléance par rapport au calife pour lui dire « Vous n'appliquez pas la loi concernant la vémitude, la protection. Nous avons droit à la protection, nous avons droit d'être protégés et vous nous malmenez. »
Oui, donc c'est une allusion aux persécutions que Hakim, à certains moments de son règne, avait menées contre les juifs et les chrétiens. Et donc, il y a une épître qui met cela très bien en scène. Les juifs, les chrétiens, ils envoient une délégation, il rencontre Hakim dans le désert, et là, il leur dit, écoutez...
Composer des plus savants, pas mieux.
Oui, et donc, apparemment, il leur dit, voilà, le pacte que Mahomet avait fait de la zimitude avec les communautés, les Ahl el-Kitab, est maintenant révolu, parce qu'on n'est plus dans l'époque de Mahomet. Maintenant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, et bon, c'est fini. L'islam est révolu, mais également le judaïsme et le christianisme. Il n'y a plus de religion. Toutes les religions sont abolies. Voilà.
Et l'épître des femmes, deux épîtres qui sont consacrées aux femmes, mais ce que nous trouvons de plus en correspondance avec l'abolition de la loi, toute cette nouvelle législation, d'ailleurs vous estimez dans vos notes que cette pointe concernant le divorce, la nouvelle disposition du divorce, le remplacement de la répudiation par le divorce, un divorce qui montre une stricte égalité de traitement entre femmes et hommes, avec ils entrent dans un certain détail pour le partage, les torts, qui a le plus tort et la décision de ce qui est en possession. C'est presque la communauté des biens, c'est très très surprenant.
Mais c'est cela évidemment, c'est aussi une des nombreuses questions et énigmes qui entourent tout ce mouvement druze. Donc l'idée était que, bon, à l'époque d'Adam, il n'y avait pas de loi positive, il n'y avait qu'une loi spirituelle, une charia rouhaniya. Avec l'apparition d'El-Hakim et Hamza, la loi, la charia namusiya, donc la charia qui est liée à une loi positive, à des règles strictes, est abolie, et elle est remplacée par une nouvelle loi spirituelle. Et donc il y a 7 préceptes moraux qui doivent remplacer les 7 vertus. Donc il faut se soumettre à El-Hakim, il faut...
Oui, c'est très curieux, comme vertu, la soumission...
La soumission, il faut être content, soumis à ses ordres, il faut être la véracité dans le langage, le site, la solidarité avec les frères. Bon. Mais tout ça, évidemment, c'est des principes moraux extrêmement vagues. Et on ne peut pas bâtir une société et une communauté sur de tels préceptes. Alors, il y a très peu d'éléments qui, dans ce corpus de textes, qui vraiment témoignent d'une nouvelle loi qui est censée remplacer la loi de l'islam. Et une des grandes exceptions, c'est cet épître qui traite précisément du statut de la femme et où, bon, l'auteur dit, voilà... Les druzes, les femmes druzes sont strictement égales aux hommes, et bon, il n'y a plus de répudiation, et donc si on peut établir que le mari est en tort, n'a pas accompli ses devoirs de mari, bon, le mariage est dissous et c'est la femme qui reçoit un dédommagement. Et si c'est la femme qui est en tort, bon, c'est l'inverse. Donc c'est tout à fait étranger à la loi musulmane. Mais c'est une des très rares exemples d'une nouvelle législation. Donc,
Vous reconnaissez en certains druzes actuels, ils rappellent cela en disant évidemment, voilà,
pour dire voilà, c'est une législation révolutionnaire et moderne. Mais le problème, c'est que bon, on connaît très mal l'évolution de la communauté druze et de la religion druze après l'élaboration de ces épîtres, et donc on ne sait pas très bien en quoi consiste cette loi, puisqu'elle est aussi secrète, évidemment. Donc est-ce qu'ils se sont apparemment, bon, mais c'est une partakia, ils se sont resoumis à la loi musulmane qui était, ils ont pratiqué la loi musulmane, mais est-ce qu'il y a une loi qui est interne à la communauté? Probablement oui, mais bon, à ce sujet...
Elle ne nous est pas parvenue.
Oui, mais sans doute dans la littérature interne. Mais donc, curieusement, bon, les textes que nous avons en Occident, qui proviennent donc des pillages de Khalwa, sont majoritairement des manuscrits des Rassel et Rikma, donc des corpus de textes religieux druzes. Mais il y a toute une littérature interne, des ouvrages juridiques, des ouvrages historiques dont on suppose qu'ils existent. Il y a certains druzes qui prétendent qu'ils existent, mais bon, dont il y a très 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 peu d'exemplaires, sinon pas du tout en Occident. Et comme bon, cette littérature est également secrète, on peut uniquement, il n'y a pas moyen d'étudier ces éléments.
Et cette épître, dont la lecture m'a passionné, de cette épître où il est question de justement de la justification par toute une série d'interprétations de tous les actes fantasques de d'Al-Hakam. Et elle est passionnante dans le sens où vraiment on circule dans le cas de l'époque avec toutes ces toponymies. Alors vous faites effort dans vos notes pour essayer à partir de Makrizi. Et c'est Khitat qui est un auteur donc du 15e siècle, ouais. Pour retrouver cette toponymie du 11e siècle, les multiples jardins, les ponts, les quartiers, les portes. Oui. Il circulait beaucoup dans la ville, c'est étonnant.
Tout à fait. Et donc.
Et alors tout ce rapport avec les voyous, avec dans le port, avec les portefeuilles. Il était passionné d'histoire de portefeuilles.
Donc toutes ces bizarreries de l'Hakim sont interprétées comme se référant à l'abolition de la charia. Par exemple, en tant que imam calife, il était supposé le vendredi de diriger la prière, la grande prière du vendredi à la mosquée El Azhar. Bon, on rapporte dans l'épître en question que bon, le calife avait quitté le palais à Dodan, ce qui était déjà tout à fait inhabituel. Il est arrivé devant la porte de la mosquée El Azhar où tout le monde l'attendait pour qu'il dirige la prière. Il est descendu de son âne, il a salué tout le monde. Il a monté un autre âne et il est parti, il s'est promené dans les jardins. Donc voilà, et Hamza dit, voilà, ça c'est la preuve par excellence que l'obligation de la prière est abolie. Voilà, et toutes sortes de choses qui sont interdites.
Le jeûne est aboli, le pèlerinage est aboli.
Par exemple, les califes fatimides avaient l'habitude d'envoyer chaque année
la kiswa, ce qu'on appelle
à la Mecque, donc la kiswa,
le tissu qui couvre le cube.
Un grand tissu de brocart très précieux qui couvre la Kaaba. Bien, Hakim, bon,
il néglige
cela, et pour Hamza, c'est la preuve que le pèlerinage est aboli. Il s'est même mis à attaquer les pèlerins à un certain moment. Bon. Donc tous ces faits bizarres sont considérés comme...
Et la passion, alors, pour les paroles, toute cette littérature des portefeuilles...
Pour tout ce qui transgresse, bon, pour la hazl, hein, pour tout ce qui est considéré comme frivole, la frivolité, bon, il aimait les...
Ah, c'est ça, la fameuse épître du hazl, de la frivolité.
Bah, oui, la frivolité, oui. Donc il y a toutes des traditions, même des hadiths qui disent que...
Du scabreux, presque.
Que le musulman doit être sérieux et qu'il ne peut pas s'abandonner à la frivolité, alors que Hakim, précisément, il cultive cela, bon, tout ce qui est en marge de la légitimité, bon, les jeux, bon, et tout ça est considéré...
Le scabreux.
Scabreux, tout ce qui est scabreux, bon, la poésie un peu obscène, tout ça, il y a beaucoup de passages obscènes dans ces textes, donc... Ça peut également être mis en rapport avec des courants au sein du soufisme où on cultive ce forme de transgression de la loi.
C'est-à-dire les maîtres du scandale, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Donc, transgresser vraiment la loi, provoquer la loi pour montrer, dans ce cas-ci, que la loi est abolie. Voilà.
Et qu'en est-il de la destruction cachée ? Pourquoi cette vocation à la destruction ?
Ben c'est la destruction, oui, de tous ces da'aïm, ces piliers. Il faut prendre ça parce que les da'aïm et l'islam, c'est un ouvrage juridique du Qadi an-Nu'man, donc c'est la base du droit fatimide. Et donc, ici, c'est la déconstruction, la destruction complète de chacun de ces piliers. Donc, c'est vraiment détruire jusque dans le fond l'ouvrage du Qadi an-Nu'man. Donc, c'est une révolte absolue. Non, contre l'islam en général, mais contre l'ismaïlisme en particulier. Donc c'est une déconstruction totale du système fatimide.
Et ça perdure, ça continue, ça a duré à travers les siècles en raison de la taqiyya, parce qu'ils ont tout caché,
apparemment,
le secret est maintenu. Et comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, de druzes, on en trouve qu'en Syrie, Liban, Israël ?
Parce que bon, apparemment, déjà du temps de Hamza, donc du temps d'El-Hakim, ils ont envoyé des missionnaires en Syrie, au Liban, sur les monts Hermon. Et donc là, bon, apparemment, cette communauté a eu des adeptes. Après la disparition d'El-Hakim, les druzes ont été persécutés en Égypte d'une façon apparemment très efficace, puisqu'on perd toute trace d'eux. Bon, mais la communauté s'est maintenue dans ces régions dites isolées, dans la montagne. Et là, ils se sont constitués en une communauté fermée, pratiquant la taqiyya. Il y a plein de dirigeants et de familles libanaises dont on ne sait pas vraiment s'ils étaient chrétiennes ou s'ils étaient druzes. Donc, c'est toujours très embrouillé, parfois, des dynasties, des clans qui sont en cheval entre les deux. Et donc, c'est cette attitude qui a permis leur survie. Mais le problème est que nous connaissons très mal la période, les siècles entre le début donc, du XIe siècle et ce qu'on a appelé la Renaissance druze au XVe siècle. Donc au XVe siècle, il y a eu un cheikh Tanouhi, un savant qui a écrit toute une série de textes, notamment des commentaires de ses épîtres, et qui est considéré comme le fondateur d'une théologie druze moderne, enfin du XVe siècle. Mais tout ce qui s'est passé entre cette période, la période où les épîtres ont été rédigés, et la période de Tanouhi, on n'en sait pratiquement rien.
Daniel de Smet, une toute dernière question. Vous prévoyez un deuxième livre pour les épîtres que vous n'avez pas traduites ici même, dans cet ensemble, donc, les épîtres sacrées des Druzes, là c'est Al-Hikma, où vous rassemblez les volumes 1 et 2, et c'est pareil aux éditions Peters.
Donc j'ai publié, édité et traduit les 40 premières épîtres, celles de Hamza et de Tamimi. Il en reste une soixantaine, donc, qui sont majoritairement des ouvrages de Baha'eddin al-Muqtana. Elles sont un peu plus tardives. C'est un énorme corpus. Bon, j'ai beaucoup de matériel, mais bon, actuellement, je suis engagé dans d'autres projets et j'aimerais bien que quelqu'un prenne la relève en cette matière. Surtout qu'en fait, ces textes, ou bien elles reprennent des éléments qui sont déjà dans les épîtres, ou bien elles ont trait à l'organisation de la communauté au Liban et en Syrie.
En tous les cas, depuis 1838, Sylvestre de Sacy, là, il a fallu attendre 2007 pour que vraiment on ait un regard plus complet sur cette religion des Druzes. C'est un texte absolument passionnant et qui nous fait entrer dans ce monde qui est un monde en soi. Et le fait que les Druzes existent sont encore parmi nous aujourd'hui.
Tout à fait. Oui.
Donc on a à savoir ce qu'ils pensent, même si eux, ils sont dans la rétention, dans le secret. Merci Daniel de Smet. Nous avons donc parlé de cette religion des Druzes à travers leurs épîtres sacrées dans le cadre de culture d'islam animé par Abdelwahab Meddeb. Coordonné par Dominique Compétissa, le son et la technique étant assurés par Jehan Richard Dufour, la réalisation et la mise en onde par François Connac.